Oui, nous voilà à 19h15 précisément. Dans quelques instants, plusieurs questions qu'on se pose en ces temps-ci, là, dans les temps que nous vivons de grandes turbulences, autant au niveau social, économique que sanitaire, avec évidemment l'urgence sanitaire qui est décrétée depuis bientôt 3 mois, avec ce que nous vivons à travers la pandémie. Tout à coup, disons que c'est pas les policiers qui étaient nécessairement à l'avant-scène, à l'avant-plan de cette gestion de la pandémie. Ils s'y sont retrouvés là depuis environ une semaine avec ce qui s'est passé aux États-Unis depuis le décès. Donc de George Floyd, la victime de ce meurtre commis par le policier du Minneapolis, donc Derek Chauvin. Et dans ce contexte-là, plusieurs questions qui se posent. On a vu des manifestations. Comment doit-on gérer les manifestations? Est-ce qu'on a les bonnes techniques? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on gérait ça de la même façon dans les années 70, dans les années 80, 90? Printemps érable, il y a eu le rapport Ménard là-dessus. Le profilage racial, on regarde du côté des États-Unis comme ça n'arrivait pas chez nous. De quelle façon ça se traduit chez nous? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ce sont des cas isolés? Encore une fois, comme je l'ai dit la première fois que nous l'avons reçu à l'émission depuis il y a environ peut-être pas tout à fait un mois et demi, 2 mois, je me souviens pas exactement, mais la personne appropriée à qui j'ai pensé tout de suite pour tenter de répondre, mais c'est pas facile de répondre à ces questions-là, c'est l'ancien chef de police de la ville de Montréal, nul autre que M. Jacques Duchesneau qui est au bout du fil. M. Duchesneau, bien le bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous êtes en forme comme jamais, parce que là, je sais que vous venez de courir, là, il y a quelques jours, un marathon sur votre appareil d'exercice, rien de moins, là, un 42 kilomètres.
Oui, mais c'est vous qui m'avez donné l'inspiration. La dernière fois qu'on s'était parlé, vous m'aviez parlé d'un homme qui avait fait un marathon sur son balcon. Alors moi, je l'ai fait sur mon tapis roulant. C'est un homme d'excès, alors.
Mais c'est quelque chose quand même. Et ça vous a pris juste avant d'entrer dans le vif des sujets sérieux. Là, vous avez fait ça en combien de temps, M. Duchesneau?
6 heures.
6 heures avec le kilométrage sur un elliptique ou un tapis roulant?
Non, tapis roulant.
Un tapis roulant, fait que wow, ben bravo. Fait que le confinement vous a propulsé, puis ça a peut-être amorcé avant le confinement, mais dans une démarche de santé physique.
Absolument. Non, ouais, j'ai perdu beaucoup de poids, je mange mieux, c'est bon. Je vous dis, une journée sans faire un minimum d'entraînement, là, on dirait qu'il me manque quelque chose. Alors, c'est le nouveau moi que j'avais pas vu, que j'avais pas rencontré depuis pas des années, mais des décennies. Alors, j'ai décidé de me remettre en forme. Ça, c'était la belle occasion pour le faire.
Pour tous ceux qui veulent le faire, qui l'ont en tête, là, pouvez-vous partager ce qui a constitué le déclic, M. Duchesneau, dans votre départ? Parce qu'à un moment donné, ça prend, je pense, il y a un signal. On se met en marche. Vous, ça s'est fait de même, vous l'avez juste décidé ou il y a eu quelque chose qui l'a provoqué?
Oh, il y a quelque chose qui l'a provoqué. J'étais en voyage avec mes fils et mes petits-enfants. Et il y a un de mes fils qui a pris une photo de moi. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, c'est pas moi ça.
Ah, et, oui, hein?
Oui. C'est là que j'ai commencé à courir, à marcher d'abord, parce que j'étais pas capable de courir. Avec 53 livres en plus, là, c'était un peu plus difficile. Mais les vacances de cette année étaient beaucoup mieux.
Ben bravo, franchement là, 53 livres, Monsieur Duchesneau, qui est une espèce de cure de jouvence en quelque sorte, prêt à attaquer de nouveaux défis. Et merci d'être disponible pour tenter de répondre à ces questions-là qui sont pas faciles. Vous êtes un ancien chef de police à Montréal, Monsieur Duchesneau. Vous regardez la situation. Je sais pas si vous avez de l'empathie pour quiconque occupe la chaise de chef de police dans une grande ville américaine en ce moment, et même dans des villes canadiennes où il y a eu quelques manifestations, là, bien que ça a été beaucoup plus calme que chez nos voisins du sud, hein.
Oui, oui, c'est pas du tout la même dynamique là aux États-Unis versus le Canada. Je côtoie encore beaucoup de chefs de police à travers le pays. Je peux vous dire que c'est un comportement qui serait acceptable selon nos normes. Je vous dis pas qu'il n'en arrive pas, mais si des choses devaient arriver, ben justement les chefs devraient se tenir debout et faire preuve de leadership et démontrer. Je disais à quelqu'un l'autre jour. C'est pas les procédures et les directives que tu écris qui vont vraiment guider l'action des personnes qui travaillent pour toi. C'est ta gestion au quotidien. Comment tu réagis à des cas d'abus? Si tu tolères, ben, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Alors, je pense que c'est là que le leadership d'un chef de police fait toute la différence.
Je le disais tout à l'heure, on regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud, puis on se dit, ben, nous, c'est pas si pire, mais en même temps, il y en a du racisme, il y en a partout à travers la planète, il y en a ici, il y en a du profilage racial. Comme il y a du profilage, j'imagine aussi, là, si je sors de l'aspect racial, à un moment donné, si t'as une voiture sport, je pense que t'es plus sujette à te faire arrêter de temps en temps. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui ça soulève quelque chose peut-être chez les policiers. policier, mais restons dans le profilage racial. Si, par exemple, justement, une personne d'origine afro-américaine a une super voiture sport, c'est drôle, j'ai comme l'impression qu'il est plus à risque de se faire arrêter souvent. L'avez-vous vécu dans votre mandat comme chef de police? C'est-tu quelque chose que vous observiez et que sur lequel, au sujet duquel vous exerciez une certaine vigilance ou une vigilance certaine?
Oui, mais moi, je suis devenu policier en 1968. Les normes étaient bien différentes et les officiers nous incitaient à faire des arrêts comme ça pour vérifier les gens. Ça faisait partie de la culture. Cette culture-là a changé. Mais par contre, il ne faut pas non plus amener les policiers à faire ce qu'on appelle en anglais du under-policing, arrêter de faire de la police, regarder à gauche quand il se passe quelque chose à droite, parce que c'est l'ensemble de la société qui va payer le prix pour une affaire comme ça. Donc, faire du profiling, du profilage, c'est une chose qu'on doit regarder, regarder attentivement. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est une fois que tu as fait... tu as pris la décision d'intercepter un véhicule, c'est comment le policier se comporte avec la personne qui vient d'être interceptée. S'il est poli, s'il vous voit, il n'y en aura pas de dérapage. Mais si parce qu'il y a un doute que cette personne-là peut avoir commis un crime et le traite comme s'il était déjà un criminel alors qu'il n'est pas sûr, c'est là qu'on s'embarque dans des problèmes. Donc, je pense qu'il faut regarder les deux côtés. C'est pas une décision qui est simple. Il y a des policiers qui ont fait des interceptions comme ça et qui ont empêché que des crimes soient commis. Je me rappelle de deux collègues de travail avec qui je travaillais qui ont intercepté durant la crise d'octobre des gens qui s'en allaient faire le kidnapping pas l'ambassadeur, mais le...
Pierre Laporte?
Le consul des États-Unis à Montréal. Alors là, tout le monde a félicité les deux policiers, puis avec raison, mais faut donc, moi je dis toujours, la police c'est la communauté, et la communauté c'est la police. Hein. Ça c'est le vieux principe de Robert Peel qui a créé la police moderne. Alors, les gens qui sont policiers sont pas issus d'une autre planète, ils sont dans notre environnement. Donc, regardez la société en général, puis vous avez la même prédisposition ou les mêmes comportements dans un service de police. C'est là qu'on va chercher nos gens. Mais ce que ça prend dans la police, c'est beaucoup de discipline.
Entre ce qu'on recommandait ou qu'on vous enseignait là sur le terrain en 1968, M. Duchesneau, et les années où vous avez exercé votre mandat de chef de la police, et ce que vous constatez comme citoyen très intéressé aujourd'hui, avez-vous l'impression que ça a évolué, la représentation, par exemple, des minorités dans le corps policier, l'attitude des policiers? Constatez-vous une évolution positive, un statu quo ou du recul?
Ah, absolument. Dans les années, au début des années 90, j'ai été membre de la commission Corbeau qui a fait un rapport sur les relations entre la police et les minorités visibles. Et de ce rapport est sorti plusieurs recommandations qu'on a appliquées, notamment l'embauche de minorités visibles. Et ça a été profitable. On a même gagné un prix de la commission des droits de la personne. Mais ça, c'est une étape. Encore là, c'est pour donner une image, mais j'ai jamais dit à un policier ou une policière noire, je t'embauche parce que t'es noir, parce que ça serait en même temps faire une certaine discrimination. Et ça serait aussi diminuer la compétence que peut avoir la personne. Hein. Les enseignants vont reconnaître l'effet Pygmalion. Hein. L'effet, quand tu dis à un enfant qui est bon, tu l'encourages, il va avoir de bons résultats. Mais il y a l'envers de la médaille, c'est l'effet golem. Si tu dis à quelqu'un qu'il est jamais bon, il sera jamais bon. C'est la même chose pour nos policiers, ce sont des êtres humains. Quand tu es chef de police, tu gères pas des robots, tu gères des personnes. Alors, si on se met à toujours critiquer, à tort ou à raison, à prendre un contexte américain qui est complètement différent du complexe canadien, puis tenter de faire des amalgames, je suis pas sûr qu'on s'en va dans la bonne direction. Les policiers sont mieux formés ici qu'ils sont aux États-Unis. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Beaucoup d'emphase est mis sur la relation avec la communauté. Alors moi, je suis confiant, mais je vous dis pas qu'il n'y en a pas. Je vous dis surtout pas qu'il n'y en a pas. Il y a des individus qui, à un moment donné, peuvent déraper, puis on l'a vu à Minneapolis. Est-ce que c'est le portrait qu'on va avoir de la police de Minneapolis? Sûrement pas, mais c'est un point de discorde, c'est sûr.
Certainement. Vous avez peut-être déjà congédié des policiers. Je ne sais pas si vous avez déjà eu en congédié à cause des situations de profilage ou quoi que ce soit. Ou avez-vous déjà eu à remercier des policiers, M. Duchesneau, pendant votre règne à la tête de la police de Montréal?
Oui, pas loin de 25. Les policiers savaient ce que je tolérais et ce que je ne tolérais pas. Moi, j'avais demandé, lorsqu'on a commencé la police de quartier, j'avais demandé à tous les policiers de vouvoyer les gens. Et ça fait toute une différence. Donc, ils savaient où était ma limite. Par contre, j'ai gardé des policiers qui avaient utilisé leur arme et avaient fait feu parce que leur vie ou la vie de quelqu'un était en danger. Mais j'ai aussi congédié des policiers qui n'avaient pas des normes d'éthique convenables. Puis si on prend le policier Chauvin à Minneapolis, je ne sais pas si vous savez, mais il a travaillé avec George Floyd.
Oui, on ne sait pas s'ils se sont rencontrés, mais ils ont travaillé dans le même établissement hôtelier. Il y a de bonnes chances qu'ils s'y soient rencontrés, mais pendant une période de peut-être, on dit 9 mois, selon ce que j'ai lu, je sais pas si vous avez lu autre chose, M. Duchesneau, mais effectivement, drôle de hasard. Qu'est-ce que vous avez vu? Ouais, comme il y a beaucoup de policiers qui parfois à temps partiel avant de s'établir. Puis aux États-Unis, quand vous dites que la formation est meilleure ici, sur quoi vous vous appuyez? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anciens « doormen », entre guillemets, qui deviennent policiers aux États-Unis ou des gars de sécurité. Peut-être que c'est le cas ici aussi.
Ici, c'est différent. Minimum 3 ans de cégep. Après ça, il faut faire une formation appliquée à l'école de police du Québec. Tu as une période de probation d'1 an. Et puis, pour arriver au cégep, là, c'est à peu près 1 sur 10 des gens qui sont sélectionnés pour aller en technique policière. Alors non. Donc, je pense qu'on a des normes sans aucune commune mesure. Ça n'empêche pas que des gens soient bons à l'école et se comportent mal. Moi, je suis toujours dans le comportement. On peut arriver avec les meilleures prédispositions.
C'est vrai.
C'est des choses qu'on ne peut pas faire.
Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme citoyen, humainement parlant, mais aussi en faisant référence à votre expérience de policier, quand vous avez vu ce policier, Derek Chauvin, étouffé de son genou, de tout son poids, la victime, M. Floyd?
Si je vous disais rage, ça serait peut-être un pâle reflet de ce que j'ai vécu. Puis j'ai un fils qui est policier, puis tout de suite, je l'ai appelé, puis il a eu la même réaction, donc j'étais bien content. C'est inacceptable. Il n'y a pas rien dans les techniques policières qui nous montre ça. Il est couché par terre. Le seul fait d'être couché à plat ventre, avec les mains dans le dos, c'est difficile si t'es cardiaque. On ne sait même pas si c'est le fait du genou qui a causé la mort ou le fait qu'il soit couché sur le ventre. Puis il n'y a rien qui demandait ça. Le crime pour lequel ils ont été appelés, c'était un faux billet. On en a de ça tous les jours. Une fois menotté, on aurait pu l'asseoir dans la voiture. C'est une série d'erreurs et c'est surtout un manque fondamental, minimal, qu'on a envers une personne humaine. Il n'y a rien qui peut expliquer ça. Avec ce que j'ai vu, on nous arrivera peut-être avec une explication, mais même si on me donnait des explications sur ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dans la séquence vidéo que j'ai vue, c'est inacceptable par tous les points de vue.
Est-ce que, selon vous, c'est un meurtre pur et net?
Le meurtre, il faut prouver l'intention coupable. S'il avait l'intention de le tuer, c'est ça qu'il faut prouver. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a accusé comme d'un homicide involontaire, là, si on le compare au droit canadien. Donc, il n'y avait peut-être pas une intention, mais la personne est morte. Puis, moi, je dis toujours, dans une intervention policière, quand quelqu'un meurt, que ce soit du côté d'un citoyen ou du côté d'un policier, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il n'y a rien qui fait en sorte que des gens qui se rencontrent meurent dans une intervention policière. Rien. Il n'y a rien qui peut expliquer ça. Mais il en arrive.
C'est très, très révoltant d'avoir assisté à ça. Et moi, l'aspect peut-être le plus révoltant, puis il y en a plusieurs éléments ou aspects révoltants, mais c'est de voir que, tu sais, dans le temps, quand on remonte en 1989, c'est en 92 que les émeutes de Los Angeles ont éclaté à la suite de l'acquittement des policiers impliqués dans le passage à tabac de Rodney King. Mais ces policiers-là, on n'était pas à l'époque des soldats que nous avons tous aujourd'hui, M. Duchesneau, mais ils avaient quand même assez conscience de ce qu'ils faisaient pour regarder par-dessus leur épaule de temps en temps, au cas où quelqu'un les aurait aperçus. Alors que là, ce policier-là, on l'a vu agir étant très conscient que des gens filmaient la scène et n'a pas bronché pendant 9 minutes et quelques secondes. C'est ça qui, pour moi, dépasse l'entendement. Pouvez-vous expliquer ça, vous, dans votre tête, que, mettons, c'est pas un de vos policiers, là, mais comment qu'on peut expliquer ça, un comportement aussi désinvolte par rapport à la gravité de ce qui passe sous son genou?
Mais s'il a été accusé 18 fois en discipline puis qu'il est encore policier, là, vous avez peut-être une partie de la réponse. Ça fait longtemps que ce gars-là aurait dû être congédié. Puis il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans le temps que moi j'étais chef à Montréal qui démontrait que les gros cas de malversation ou de comportement dérogatoire chez les policiers de New York, on aurait pu les déceler avant parce que le policier qui est habituellement déviant va arriver en retard au travail, il va arriver avec un uniforme qui est souillé, il va répondre de façon désinvolte aux gens. Et donc, il y a un pattern. Moi, justement, le fait qu'il y ait des caméras puis que cette personne-là soit pas plus consciente de ça, tu dis qu'il y a un problème. Puis il y a un deuxième problème aussi. Si vous parlez de Rodney King, puis on parle de l'affaire Floyd, dans le cas de Rodney King, ce qui a amené les policiers à se défouler avec leur bâton, c'est la présence d'un nombre supérieur de policiers. On dirait que quand il y a on masse des policiers ensemble, là, ben c'est comme tout est permis, c'est nous autres, on a le bon bout du bâton. Mais on appelait George Floyd le géant gentil, il mesurait, je pense, 6 pieds 6, 6 pieds 7. Imaginez deux policiers qui répondent et rencontrent ce gars-là. Je vous dis que la dynamique n'est pas pareille. Ils vont être très polis. Mais s'il arrive 10 policiers pour appuyer la démarche, mais là, la démarche va peut-être changer. Puis c'est pour ça que je me suis toujours objecté à ce que les policiers se déplacent en masse vers un incident, parce que on n'est plus dans une dynamique de policiers-citoyens. On est dans une dynamique de nous versus eux.
Les chefs de police, là, c'est comme un coach walkie, là. Tu le sais, c'est qui ton joueur qui peut mettre le trouble, puis l'agitateur, quoi que ce soit. Il y a plus de policiers dans un corps policier que de joueurs dans une équipe de hockey. Mais quand on est chef de police à Minneapolis ou à Montréal, est-ce qu'on le sait c'est qui nos candidats au trouble? Avant qu'ils arrivent, oui?
Non, oui. Il y a des gens. Puis ça, je vous dis, moi, 18 fois être accusé en discipline, il y a des officiers quelque part qui n'ont pas fait leur travail.
Mais vous pouvez pas toujours congédier ceux que vous savez qui sont à risque.
C'est pas évident. Je peux vous dire qu'on peut leur faire la visure, ils vont peut-être changer d'environnement. Il y a des gens. Je dis toujours, moi, si tu veux connaître quelqu'un, donne-lui du pouvoir. Donc, avant d'arriver à mettre un genou sur le cou de quelqu'un pendant 10 minutes puis qu'il en meurt, ben il s'est sûrement passé d'autres choses dans le passé. Et la preuve, c'est qu'il y a eu 18 accusations disciplinaires. Il faut que quelqu'un allume à un moment donné puis dire, ben là, regarde, je te fais une évaluation annuelle. Nous, on fait ça au service de police de Montréal. Puis dans l'évaluation, on a une bonne discussion. Puis si le comportement qu'on te reproche et pas changé, bien, il y a des mesures qui vont être prises. Puis il y a des policiers, parmi les gens que j'ai congédiés, c'était justement ça.
Hein? Un dernier élément que j'aimerais aborder avec vous, M. Duchesneau, sans ambitionner sur votre temps, c'est la gestion. On en a parlé au téléphone en privé, et vous n'êtes pas nécessairement un spécialiste de cet aspect-là précisément, mais la gestion de manifestations. Comme policier jeune dans votre carrière, vous avez vécu d'immenses manifestations, m'avez-vous raconté. Et comment trouvez-vous qu'on gère les manifs aujourd'hui, l'escouade anti-émeute? Est-ce que ça invite, ça incite, c'est une provocation? C'est-tu la bonne façon? On a vu des policiers enlever leur casque, mettre un genou par terre. Je sais bien qu'on peut pas mettre un genou par terre face à des gens qui nous lancent des condoms pleins d'urine, mais quelle est votre pensée sur la façon dont on gère des manifs?
En préambule, je vais vous dire que moi, je suis devenu policier le 1er avril 1968, puis je suis allé à l'école d'entraînement, et la première fois que j'ai porté mon uniforme en public, c'était le 24 juin 1968, le soir de la grosse émeute dans le parc La Fontaine.
Quel départ?
Quel départ! Et puis là, quand on est passé, on était dans la troupe d'honneur qui ouvrait la parade, quand on est passé devant la bibliothèque municipale, là, les roches, les bouteilles passaient par-dessus la tête, là, tu dis, mais dans une sorte de métier, je viens d'accepter. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Mais on a appris, on a eu de la formation. Après ça, j'ai été sur l'escouade anti-émeute. Puis le travail se faisait bien. Quand on est bien commandé, bien structuré, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai géré le soir du référendum de 1995, quand les gens du ont perdu, puis qui sont présentés où étaient les gens du non. Et il y avait une tension énorme. Mais dans un moment comme celui-là, il faut que tu montres tout de suite que tu es prêt à agir. On avait un hélicoptère, des autobus remplis de policiers, et il n'y a pas eu de confrontation. Donc, que les gens manifestent, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut aussi qu'ils sachent que si on déborde, il va se passer quelque chose.
La police, c'est la police.
Mais la police, c'est la police. Puis, vous savez, je dis toujours, pourquoi il y a toujours à peu près 500 policiers en devoir, 24 heures par jour, 7 jours par semaine sur l'île de Montréal. pourquoi 500 policiers sont capables de gérer 2 millions de personnes à peu près le jour? Tout simplement parce que les gens nous donnent ce pouvoir-là. Si le comportement des policiers devient dérogatoire, ben, les gens auront plus confiance et là, c'est 5000 policiers par quart de travail dont on aura besoin. Donc, la police communautaire, la police de quartier qu'on a amenée au milieu des années 90, c'était justement de se rapprocher de la population. On a peur juste de ce qu'on connaît pas. Alors, si nos policiers rencontrent les citoyens d'une minorité uniquement quand on a des appels puis quand ça va mal, ben on va prétendre que tout le monde est comme ça. Puis les policiers se plaignent eux qu'ils sont mal jugés pour l'erreur d'un. On va en passer tous pour des idiots, mais c'est la même chose de l'autre côté. Si vous pensez que tous les Noirs sont des criminels, mais ça augure très mal. Alors, il faut trouver le juste équilibre.
Monsieur Duchesneau, merci beaucoup de partager avec nous vos réflexions. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.
Bonsoir.
Au revoir. Donc, l'ancien chef de police de la ville de Montréal, 19h35.